Alors, tandis que nous sommes justement, donc, comme je le disais à l'instant, à la veille de cette fête, qui est une fête très festive en Israël, il y a des défilés d'enfants déguisés, c'est un peu carnaval, et c'est une fête extrêmement importante sur le plan des relations sociales, évidemment aussi gustative, dans la mesure où on mange évidemment des gâteaux, tout un tas de choses qu'on appelle les oreilles d'Aman. Vous aurez l'occasion de goûter. Et donc, pour ceux qui... Bon, j'en ai pas, je pense que c'est pas aussi nombreux, mais bon, on fera ce qu'on pourra pour partager au moins un gâteau par personne, si ce n'est peut-être deux, mais en tout cas au moins un, au moins symboliquement, de partager ce moment de convivialité. Et j'ai aussi un petit peu de jus de raisin accompagné, enfin, on verra ce qu'on pourra faire. Et puis donc, Marie-Michel a ramené d'autres gâteaux, ça va un peu compléter, c'est très bien. Donc, l'occasion de partager ce temps de fête et donc de nous réjouir ensemble. En Israël, et même parmi les Juifs, la plupart du temps, c'est l'occasion d'offrir des cadeaux aussi aux enfants et aux grands parfois aussi. Donc il m'a semblé utile de rappeler à la fois le contenu et peut-être aussi le sens de cette fête, qui n'est pas une fête majeure, qu'on appelle aussi en fait bien souvent une demi-fête dans le cycle des fêtes du calendrier juif, mais quand même qui a son importance sur le plan collectif et de la vie du peuple d'Israël. Du fait de son caractère en apparence, j'ai mis entre guillemets, nationaliste, et de sa conclusion, qui est quand même la mort des ennemis des Juifs dans le récit du livre d'Esther, bien des chrétiens ont parfois un regard assez critique sur le texte qui leur apparaît contraire peut-être parfois même à la portée de l'évangile de paix et d'amour qui est énoncé dans l'évangile. Et certains considèrent même l'attitude des Juifs dans cette histoire comme en opposition avec celle attendue des chrétiens lors des persécutions. Parce que c'est un récit de persécution finalement. Or, le texte biblique, le livre d'Esther, n'a pas pour objet de prôner la vengeance ou même de réclamer la mort des ennemis des Juifs. Il ne revendique pas l'intérêt supérieur de la nation, juive en l'occurrence. C'est ce que je vous propose donc d'essayer de voir, c'est d'examiner finalement ensemble, en nous arrêtant sur le fond du texte et ses conséquences pour notre vie de tous les jours aujourd'hui. Essayer de comprendre finalement quelle peut être la portée de ce texte et le sens premier de ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Alors, je vous invite, si vous avez une Bible, à suivre, on ne va pas lire les 10 chapitres, mais au moins quelques-uns. Au chapitre 1, verset 1 du livre d'Esther. C'était au temps d'Assuérus. Cet Assuérus régnait de l'Inde à l'Éthiopie sur 127 provinces. En ce temps-là, le roi Assuérus s'installa sur le trône royal de Suse, la capitale. La troisième année de son règne, il présida un festin qu'il donnait à tous ses princes et ses serviteurs, à l'armée perse et mède, aux dignitaires et gouverneurs de province, montrant ainsi la glorieuse richesse de son règne et la rare magnificence de sa grandeur. Et cela dura 180 jours, 6 mois. 6 mois à faire la fiesta. Hein. À l'expiration de ces journées, le roi donna pendant 7 jours encore un festin en plein air, dans le jardin du palais royal, à tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, du plus grand au plus petit. Des tissus colorés de lin, de coton et de laine violette étaient tendus par des cordons blancs et pourpres, passés dans des anneaux d'argent à des colonnes de marbre. Les divans étaient d'or et d'argent, sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de marbre noir. On servait à boire dans une grande variété de coupes d'or, et le vin du roi abondait avec une libéralité royale. On buvait selon un protocole sans contrainte, entendez par là, jusqu'à l'ivrognerie. Le roi avait imposé à tous les intendants de sa maison de se conformer aux désirs de chacun. De son côté, la reine Vashti donna un festin pour les femmes dans le palais royal du roi Assuérus. Le septième jour, dans l'euphorie du vin, le roi dit « Mehuman bista » dit à « Mehuzan » Mehuman, pardon, Bista Arbora, Bicta, Abacta, Zétar et Carsas, les sept eunuques du service auprès du roi Assuérus, de faire venir la reine Vashti en présence du roi avec sa couronne royale pour montrer sa beauté aux peuples et aux princes, car elle était très belle. Mais la reine Vashti refusa de se rendre à l'ordre du roi transmis par l'intermédiaire des eunuques. Et le roi en conclut une grande indignation et fut enflammé de fureur. Et c'est ainsi donc que commence le récit formidable de la libération et du sauvetage du peuple d'Israël qui est alors en exil. Et on comprend bien que ce texte est assez amplifié peut-être quelque part pour montrer à la fois les excès en tout genre de ce roi et de tous ceux qui sont à sa cour. Mais je pense qu'il convient de situer un peu le contexte de cette histoire. L'histoire se passe en 483 avant l'ère chrétienne et elle se situe donc sous le règne de Xerxès ou Assuérus selon les termes, roi de Perse, homme connu pour être porté sur la gente féminine, puisqu'ici il est mis en valeur quand même la beauté de la reine. Et son règne va de 486 à 465. Donc, ça en est à peu près au milieu de son règne. Le peuple de Juda est en exil dans ses provinces, et notamment à Suse, qui est l'une des capitales de ce gigantesque empire. Il règne une certaine paix, entre guillemets, un petit peu à la Pax Romana, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de grands conflits guerriers dans cette période. Mais il y a bien sûr des conflits ici ou là, mais disons c'est un peu un immense empire où règne une certaine harmonie quand même. Le livre d'Esther a ceci de particulier qu'il ne comporte aucun signe visible d'une vie spirituelle évidente. Le nom même de Dieu n'est pas mentionné, n'est pas nommé. Et il ne contient aucune prière, aucune démarche d'adoration religieuse, de façon manifeste, même si parfois il y a des sous-entendus. Quand même intéressant de voir, on pourrait presque le prendre pour un récit profane, presque. En lisant le texte aujourd'hui, on ne peut s'empêcher de voir une certaine analogie avec notre situation présente. Les Juifs sont aussi, dans l'ensemble, du moins en grande partie encore, en exil dans le monde entier. Il existe une spiritualité, peut-être aussi peu visible, comme à cette époque, signe quelque part d'une certaine assimilation importante du peuple juif parmi les nations. Pour autant, Dieu est évidemment bien présent dans le livre et pleinement à l'origine de l'action libératrice qui va être racontée, surtout vers la fin du récit. Le caractère religieux du livre et du récit est indiscutable. Le jeûne d'Esther était certainement associé à des prières, comme on peut le voir au chapitre 4, verset 16 notamment. Et le livre en lui-même a très rapidement été accepté dans ce qu'on appelle le canon des Écritures, c'est-à-dire dans la liste des livres acceptés, faisant autorité pour la foi des Juifs. On a d'ailleurs allusion à cette intégration de ce livre, notamment dans certains écrits juifs dès le 1er siècle. Alors on peut être surpris par le caractère un tantinet nationaliste du livre et l'issue sanglante au chapitre 9, même si en réalité la punition des ennemis des Juifs est d'une certaine manière assez limitée dans sa portée. Et ce nationalisme, s'il en est toutefois bien différent de ce que nous voyons de nos jours. D'abord, nous ne sommes pas dans la revendication d'un territoire ou même d'une identité culturelle qui aurait un caractère oppressant sur des minorités. Ici, le peuple juif vit de façon assez simple et sans contrainte, sans particularisme, au milieu de cet immense empire. Enfin, Dieu intervient certes en sous-main, mais on perçoit derrière le récit un but bien différent de celui d'exterminer objectivement tous les ennemis des Juifs. Finalement, la destruction des ennemis des Juifs, du moins en partie, n'est que finalement anecdotique dans ce récit. Il y a autre chose derrière qui est bien plus important et qu'on va essayer de relever. Nous pouvons retenir en réalité plusieurs leçons de ce récit narratif qui se traduit aujourd'hui par une fête que l'on appelle Pourim, Pourim étant le pluriel d'un terme qui signifie les sorts, puisqu'en fait on a jeté au sort dans le contexte de ce récit, la vie des Juifs, finalement. Une fête qui a un caractère bruyant, on conteste, parce que, bon, normalement, on va faire le récit de l'ensemble de la Megillah d'Esther, et à chaque fois que les enfants entendent le terme « Aman », on va jouer de la crécelle, on va faire du bruit, et puis à chaque fois qu'on entend, au contraire, le terme « Mardoché », qui est donc un autre personnage qui, lui, est du côté des Juifs, là, au contraire, on applaudit et on se réjouit. Donc c'est une manière un peu aujourd'hui de raconter le récit du livre d'Esther et de se réjouir avec les enfants qui gardent une certaine attention en suivant le récit. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, donc c'est aujourd'hui une fête évidemment festive, bruyante, avec des cadeaux et on se réjouit en famille. Durant cette fête, on raconte donc la Megillah d'Esther. Ça sera quelque chose que nous ferons nous d'ailleurs en famille demain soir. Le récit commence donc par cette situation d'opulence de l'empire perse et de son empereur Xerxès. C'est le règne de l'orgie et des excès en tout genre. Et ici, le récit au premier chapitre qu'on a lu montre bien l'opulence, les excès, la richesse aussi, hein, l'or, l'argent, le marbre, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et en plus, pendant 6 mois, ça devait être quelque chose d'assez abominable, quelque part, objectivement. Mais bon, c'est comme ça que les choses se faisaient à cette époque. Et puis, on a la reine officielle, Vashti, par son insolence, qui est détrônée et qui doit être remplacée par une autre. On peut se demander parfois si c'est vraiment ces idées assez saugrenues de se dire, OK, ben, la reine ne vient pas, alors on remplace par une autre, et on fait tout pour trouver une autre reine plus belle encore que la première. Alors, nous ne sommes pas ici quand même dans un conte des mille et une nuits, mais dans un récit historique confirmé. Ça s'est réellement passé comme ça. L'aventure épique est certes là pour renforcer l'attention des lecteurs et auditeurs, mais nous n'avons aucune raison de penser qu'il y ait eu une falsification des faits. Esther est postulante pour la remplacer Vashti. C'est presque comme un conte de fées pour elle, mais pourtant bien réel, celui-là. Ce n'est pas un conte féerique, ce n'est pas un rêve qu'on raconte aux enfants. Non, c'est quelque chose de bien réel. Verset 5. Il y avait à Suse, la capitale, un juif du nom de Mardoché, fils de Yaïr, fils de Shimei, fils de Kish, benjaminite. Donc de la descendance du roi Saül. Souvenez-vous. Il avait été déporté de Jérusalem avec ceux des déportés qui avaient été emmenés avec Yéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Or, il était le tuteur de Hadassah, c'est-à-dire Esther, fille de son oncle. Donc il est le cousin, en fait. Elle n'avait plus, en effet, ni père ni mère, et cette jeune fille était d'une très grande beauté. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée. C'est là qu'on voit un peu le côté presque angélique de voir une jeune fille qui est malheureuse, qui est orpheline, et qui se retrouve adoptée par son cousin, qui est certainement plus âgé qu'elle, et qui vient la prendre en charge, mais en plus, c'est une jeune fille avec une grande beauté. Esther remplace Vashti et devient impératrice. Alors, on ne sait pas vraiment si la beauté d'Esther a été à l'origine de son enrôlement pour participer au concours, entre guillemets, ou si elle s'est présentée d'elle-même, on ne sait pas trop. Mardoché, en tout cas, bénéficie, dans ce contexte-là, de quelques avantages à cause de sa cousine. Esther cache ses origines juive et donc sa nationalité, son origine du peuple de Juda. Elle suit en ce sens l'instruction de son tuteur, de Mardoché. On verra par la suite que dans le contexte de l'exil et la suite du récit donnera en grande partie raison à Mardoché d'agir de cette façon-là. Mais il n'est pas toujours recommandé d'évoquer ses origines. Et je pense ici à un contexte plus contemporain. Je veux dire, vous connaissez tous l'histoire qui se passe actuellement et qui est dramatique en Ukraine. Et bon, on a beaucoup un peu ciblé les uns, les autres, les Russes, les machins, les partis qui ont fait un peu la révolution sur la place en face du Parlement ukrainien. Mais de savoir qu'en fait, parmi ces opposants au parti ukrainien, il y a, au président ukrainien, il y a plusieurs partis qui sont de façon tout à fait affichée nazis et fascistes. Et donc, c'est des gens qui, donc, de ce fait, sont peut-être pas forcément tout à fait recommandables. Et dans l'opposition, vous avez certainement entendu parler d'une femme avec les nattes là, qui s'appelle Timochenko, et qui est en fait d'origine juive, mais elle s'est bien gardée de présenter, d'annoncer qu'elle est d'origine juive. Elle le cache délibérément, en tout cas, elle ne l'affiche pas, même si c'est connu, pour éviter justement ce lien avec ces partis fascistes. Comme quoi, vous voyez, ce n'est pas si simple que ça, même dans notre contexte d'aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident d'afficher la couleur, surtout si on est un personnage public. Donc Mardoché, lui, a recommandé à Esther, à sa cousine, une nièce, de ne pas afficher ses origines dans le contexte d'être devenue impératrice, surtout qu'avec un empereur comme celui-là, les choses peuvent changer très rapidement. Mardoché, cependant, dans ce contexte-là, le temps passe, et lui découvre un complot contre l'empereur et permet que les auteurs soient arrêtés et jugés. C'est dans le récit, on ne sait pas exactement à quel moment ça se passe, toujours est-il que ça a son importance, puisque par la suite, ça va jouer un rôle dans l'honneur qui sera donné à Mardoché. Aman, lui, est élevé par la suite en dignité par l'empereur. C'est un proche de l'empereur. Et celui-ci est contrarié, en revanche, par l'attitude de Mardoché, qui refuse de se plier à ses exigences en se prosternant devant Aman. Et là, évidemment, le motif n'est pas simplement d'être contrarié, d'avoir un moment d'humeur, mais c'est un motif avant tout religieux. La raison invoquée donc de la contrariété d'Aman est ici bien plus que celle, évidemment, d'un sujet qui refuse de l'honorer, mais elle est, comme on va le voir dans le texte, clairement religieuse. Ils ont des lois, nous est-il dit un peu plus loin, quand il s'adresse à l'empereur, il dit « Ils ont des lois qui ne s'accordent pas avec les nôtres, finalement. Ils sont différents de nous. Ils ne sont pas comme nous. » Et Aman ne se contente pas de brimer le seul Mardoché, il aurait pu, à la limite, se contenter de lui faire du mal, mais il veut exterminer tout le peuple juif. Et c'est là, finalement, l'enjeu et l'importance du livre, et ici marqué par le cœur du problème. Et au verset 1, « Après ces événements, le roi Assuérus distingua Aman, fils d'Amadetta, l'Agagite, il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les princes de son rang. » Tous les serviteurs du roi, en place à la conciergerie royale, s'inclinaient et se prosternaient en l'honneur de Aman. Le roi en avait donné spécialement l'ordre. Pourtant, Mardoché ne s'inclinait ni ne se prosternait. Les serviteurs du roi, en place à la conciergerie royale, dirent à Mardoché : Pourquoi passes-tu outre à l'ordre du roi ? Ils lui posaient la question chaque jour. Ça, on l'oublie parfois, souvent, c'est quand même un harcèlement, quelque part, permanent. Il lui posait la question chaque jour et il ne les écoutait pas. Ils firent alors un rapport à Aman pour voir si Mardoché, qui leur avait rapporté qu'il était juif, s'en tiendrait à son attitude. Aman vit que Mardoché ne s'inclinait ni ne se prosternait en son honneur et Aman en fut rempli de fureur. Il considéra avec dédain l'idée de porter la main sur le seul Mardoché. On lui avait signalé en effet le peuple auquel appartenait Mardoché. Aman entreprit d'exterminer de tout le royaume d'Assuérus tous les Juifs, le peuple de Mardoché. Le premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du règne d'Assuérus, en présence de Aman, on jeta le pour, donc le sort, c'est-à-dire le sort, sur chaque jour du premier au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Une façon de faire, des Perses en tout cas, pour fixer un jugement, visiblement. Aman dit au roi Assuérus, « Il y a un peuple à part. Ils sont partout infiltrés parmi tous les peuples, dans toutes les provinces de ton royaume. Leur loi les distingue de tout peuple et ils n'exécutent point les lois du roi. Il ne vaut rien pour le roi de les laisser en repos. » Et on croirait entendre un discours de type d'Hitler et de bien d'autres qui voulaient exterminer le peuple juif. « Qu'il plaise au roi de signer leur perte et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires du royaume pour les verser dans les coffres du roi. Alors 10 000 talents d'argent, c'est une somme considérable. C'est milliardaire du coin, Aman. Hein. C'est quelqu'un qui a versé une somme qui, même pour l'importance de ce royaume, était une somme énorme. De nos jours, les sujets qui fâchent au sujet des Juifs sont tout autant religieux et aboutissent, au bout du compte, à des aspirations politiques visant parfois aussi l'extermination de tous les Juifs. Le Conseil européen a finalement adopté en 2013, l'année dernière, par exemple, une résolution visant à condamner la circoncision ou encore l'abattage rituel des animaux de boucherie. Donc ça vise des questions religieuses. Le conspirationnisme juif demeure une arme de poids dans les pays frappés par de grandes difficultés économiques. Il faut trouver un bouc émissaire, il faut trouver une raison à tous les maux de la société, à tous les maux d'un pays souvent économique. La politique américaine actuelle au Moyen-Orient repose elle-même sur l'idée que tous les conflits dans le monde sont issus du seul conflit israélo-arabe. Le résoudre solderait tous les autres. Et à l'inverse, s'il persiste et que les Juifs en soient clairement la cause, eh bien cela signifierait qu'ils sont la cause de finalement tous les conflits dans le monde. Absurde, bien sûr. Et pourtant, c'est là le raisonnement de beaucoup d'ennemis des Juifs dans le monde, comme d'Aman dans notre récit. Autrement dit, Aman ne fait que reproduire, ou plutôt ceux qui sont d'aujourd'hui reproduisent les mêmes schémas de pensée et d'idée que les ennemis des Juifs dans le passé, et notamment ici d'Aman. L'entreprise d'extermination est en marche. Mardoché demande alors à la reine Esther d'intervenir en faveur du peuple juif qui risque l'extermination. Juste pour revenir sur l'idée que parfois un seul est le bouc émissaire et on englobe tout le peuple derrière lui. Je veux dire, quand dans l'affaire Dreyfus, c'était un seul homme qui était, semble-t-il, visé, capitaine Dreyfus, qui était accusé d'être un espion au profit de l'Allemagne, à l'époque un peu avant la Première Guerre mondiale. Et en fait, on a mis tous les Juifs dans le même sac parce qu'il appartenait au peuple juif, alors qu'il était un homme très assimilé, qui n'avait pas affiché clairement son identité juive, qui se pensait être un très très bon Français. Et bien voilà qu'on a mis, non seulement l'a accusé, et avec lui, tout le peuple juif, d'être responsable de finalement tous les maux de la France, en l'occurrence, à cette époque-là. Donc je reprends. Lorsque Mardoché eut connaissance de tout ce qui se faisait, ça commence à être un peu chaud, on va dire, hein, il déchira ses vêtements et prit le sac et la cendre pour aller dans la ville. Il poussait de grands cris amers. Et je pense que quelque part, il faut bien comprendre que dans ce contexte-là, à cette époque, savoir que d'un seul coup, le roi, l'empereur de tout l'Empire, c'est comme si aujourd'hui l'ONU hein, se distinguait ou... L'ONU, avec plus de pouvoir qu'il a encore aujourd'hui, hein, décidait d'un seul coup l'extermination des Juifs. Où peut-on se cacher ? Nulle part. Et donc, Mardoché a une démarche de tristesse et d'un appel, finalement, à tout son peuple, pour dire, voilà, attention, c'est pas que moi qui ai visé. En plus, peut-être se sentait-il un peu quelque part coupable, en se disant, mince, c'est un peu à cause de moi aussi, mais non. Tout le peuple juif risque l'extermination. C'était pas un effet, comme ça, juste des mots. C'était réellement une sentence de l'empereur qui pouvait amener à une réelle extermination de tout le peuple juif. Il parvint ainsi vis-à-vis de la conciergerie royale, car il était impossible de pénétrer dans la conciergerie royale habillé d'un sac. Dans chaque province, partout où il parvenait l'ordre de l'édit du roi, il y eut un grand deuil chez les Juifs. Je pense qu'il y a une prise de conscience chez les Juifs que ça y est, cette fois-ci, ça peut être la dernière heure. Il jeûnait, pleurait et se lamentait beaucoup, se couchait sur le sac et la cendre. Les jeunes servantes d'Esther et ses eunuques vinrent le lui rapporter et la reine en fut toute bouleversée. Elle envoya des vêtements pour en habiller Mardoché à la place du sac qu'il avait sur lui, mais il n'accepta pas. Alors Esther appela Hatak, l'un des eunuques que le roi avait commis à son service, et lui donna des ordres au sujet de Mardoché pour savoir de quoi il s'agissait et quelle en était la raison. Il semblerait que quand on est dans le palais royal, on n'est pas au courant de ce qui se passe à l'extérieur. et aujourd'hui peut-être aussi. Hein. Hatak sortit vers Mardochée sur la place de la ville vis-à-vis de la conciergerie royale. Mardochée lui rapporta tout ce qui lui arrivait, ainsi que le détail de l'argent que Haman avait promis de peser dans les coffres du roi pour qu'on fasse périr les Juifs. Il lui donna aussi une copie du texte de l'édit d'extermination qui avait été publié à Suse. Il la montrerait à Esther et lui ferait un rapport en lui ordonnant d'aller chez le roi pour demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hatak vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther dit à Hatak en lui ordonnant de le rapporter à Mardochée. Tous les serviteurs du roi ainsi que le peuple de toutes les provinces royales savent que quiconque, homme ou femme, se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué est mis à mort en vertu d'une loi, la même pour tous. Seul peut rester en vie celui à qui le roi tend son sceptre d'or. Or, moi, voilà 30 jours que je n'ai pas été invité à venir chez le roi. Ça tient à pas grand-chose. Hein. On rapporta les paroles d'Esther à Mardochée. Mardochée fit répondre à Esther. Et là, c'est intéressant de voir la réponse. Ne t'imagine pas, majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Personne ne sait que la reine Esther est une reine juive. Car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté? Clairement, le salut des Juifs est présenté comme dans la main de Dieu. Mardochée est même convaincu que Dieu va agir d'une façon ou d'une autre. Il ne sait pas encore comment, mais il se dit que Dieu va agir. Il ne peut pas laisser son peuple être exterminé. Donc clairement, le salut des Juifs est présenté comme dans la main de Dieu, même si le nom de Dieu n'est pas mentionné. Dieu a clairement les choses sous son contrôle. C'est la place des Juifs en exil, clairement identifiée comme telle, ou au contraire, dont l'identité reste masquée, qui est ici mise en relief. Les uns sont clairement identifiés comme Juifs, et là, il semblerait qu'il n'y a plus que Esther, ou quelques-uns peut-être encore, qui ne le sont pas. De nos jours, il n'y a pas de Juifs qui puissent se dissimuler dans une assimilation totale. Un jour ou l'autre, les persécuteurs des Juifs sauront percer le mystère et atteindre ceux qui se croyaient en sécurité dans l'anonymat. Durant la Seconde Guerre mondiale, bon nombre de Juifs complètement assimilés, plus croyants du tout, se sont retrouvés déportés et envoyés à la mort avec les autres. Et même clairement, je veux dire, on sait que, par exemple, dans le ghetto de Varsovie, il y avait des Juifs qui étaient convertis au catholicisme, ou des Juifs messianiques qui se sont retrouvés dans le ghetto simplement parce qu'ils étaient Juifs. Personne n'avait oublié qu'ils étaient Juifs, visiblement. Ils ont été exterminés avec les autres. Et les chrétiens ne doivent pas, de leur côté, se croire à l'abri, mais au contraire, affirmer clairement et assumer leur choix de vie. Esther sollicite donc le soutien de tous les Juifs et va donc aller, au risque de sa vie, au-devant de l'empereur. Elle agit prudemment et organise la manière dont elle va, d'une part, révéler à l'empereur ses origines et ensuite comment elle va sauver le peuple qui pourra se défendre. C'est intéressant, on aurait pu imaginer que le peuple se rebelle, que le peuple se défende de lui-même. Mais ici, ce n'était pas aussi simple que ça. On vit dans un monde aujourd'hui où l'information va très vite, là, ce n'est pas le cas. Et quand le peuple semblait être dans une situation de passivité, ou en tout cas d'impuissance, en tout cas, face à ceux qui voulaient les exterminer. Mardochée, ensuite, c'est intéressant, Mardochée est honoré au détriment d'Aman. C'est un épisode intéressant que l'humour de Dieu nous laisse entrevoir, en même temps que, finalement, montrer que Dieu reste souverain, même dans des situations aussi improbables que celle-là. Il honore les humbles et abaisse les orgueilleux. Cette nuit-là, le sommeil le fuyant, le roi se fit apporter le livre des mémoires, les chroniques, et l'on en fit la lecture devant le roi. Évidemment que ce n'est pas fortuit, c'est Dieu qui reste souverain, que justement cette nuit-là, il ait un peu d'insomnie et qu'il aille chercher les mémoires ou les chroniques, je ne sais pas, des rois de Perse, et qu'il tombe pile poil sur le texte qui convient. Et l'on trouvera donc la relation, donc j'ai oublié un truc là, donc cette nuit-là, donc, le sommeil le fuyant, le roi se fit apporter le livre des mémoires, les chroniques, et l'on fit la lecture devant le roi. Et l'on trouva la relation du rapport de Mardochée sur Bigthan et Teresh, les deux eunuques du roi de la garde du seuil qui avaient entrepris de porter la main sur le roi Assuérus, quelques années auparavant. Le roi dit « Quelle promotion honorifique a-t-on conféré à Mardochée pour cela ?» Et les gens qui servaient le roi répondirent « Mais on ne lui a rien conféré du tout. » Mais, dit le roi, qui est dans la cour ? Juste à ce moment-là, Aman se pointe. Alors lui, il n'a pas trop peur, il est tellement proche du roi que finalement, il peut arriver à n'importe quel moment, il sera toujours bien accueilli. Et c'était donc Aman qui arrivait dans la cour extérieure du palais royal pour dire au roi qu'on pende Mardochée à la potence qu'il avait préparée pour lui. Je n'ai pas tout lu ici, mais effectivement, Mardochée avait préparé une potence très haute et en lieu public pour Aman, plutôt, pardon, oui, qui avait préparé cette potence et justement pour pendre Mardochée. Et les gens du roi dirent c'est Aman qui se tient dans la cour. Le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit « Que faire à un homme que le roi désire honorer ?» Et en son fort intérieur, Aman se dit « Ah bah, à qui donc le roi désirerait-il faire honneur plus qu'à moi ?» Quel orgueil, mais bon. Aman dit au roi « Un homme que le roi désire honorer ?» Eh bien, qu'on prenne un manteau royal dont le roi s'est vêtu et un cheval que le roi a monté et sur la tête duquel une couronne royale a été posée. Qu'on fasse don du manteau ainsi que du cheval tenu par quelqu'un des ministres du roi, un dignitaire, et qu'on revête cet homme que le roi désire honorer, qu'on le conduise à cheval sur la place de la ville, qu'on proclame devant lui, voilà ce qu'on fait à l'homme que le roi désire honorer. Et le roi répondit à Aman, « Eh bien, vite, prends le manteau et le cheval, comme tu l'as si bien dit, et agis ainsi en faveur du juif Mardochée. Wow. Celui qui est assis à la conciergerie royale, ne néglige aucun détail de ce que tu as exposé. » Et là, on voit à la fois l'humour de Dieu et on peut sourire, évidemment, en lisant ce texte, en se disant, bah, c'est vraiment la dégringolade de Aman, et ce n'est que le début, de se rendre compte que de son orgueil. Bien ensuite, Esther, bien sûr, présente très simplement sa requête. Il n'y a pas besoin d'être compliqué. Elle présente tout simplement sa requête, et à cause des règles législatives perses, qui veut qu'un décret ne puisse être abrogé, il faut en faire un autre. Pour cela, il est fait donc un nouvel édit du roi qui permet aux Juifs de se défendre contre leurs ennemis et non d'annuler le décret précédent. Le 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, quand l'ordre de l'édit du roi devait entrer en vigueur, le jour où les ennemis des Juifs espéraient se rendre maîtres d'eux, par un retournement de situation, ce furent les Juifs qui se rendirent maîtres de leurs adversaires. Dans les villes de toutes les provinces du roi Assuérus, les Juifs se rassemblèrent pour s'en prendre à ceux qui cherchaient leur malheur. Personne ne put tenir devant eux, car la terreur des Juifs les avait saisis. Tous les princes des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires royaux soutinrent les Juifs, car la terreur de Mardochée les avait saisis. Et on peut imaginer que cet épisode avec Aman, tout le monde savait que c'était Aman qui voulait la mort de Mardochée et du peuple juif. Et d'un seul coup, le voilà qu'on apprend qu'à Suse, c'est lui qui est en train d'honorer Mardochée par ordre du roi. Je dis, mais là, il y a un truc qui ne va pas. Et forcément, ça veut dire que c'est les Juifs qui sont les plus forts. Et d'où l'attitude, finalement, des hauts dignitaires perses de soutenir les Juifs. En effet, Mardochée était devenu un grand du palais. Sa renommée se répandait dans toutes les provinces et l'importance de la personne de Mardochée grandissait. Ainsi, les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée et ils les tuèrent. Et ils les firent périr et ils traitèrent leurs adversaires à leur gré. Rien qu'à Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. Et Parchandata et Dalphon et Aspata et Porata et Adalia et Aridata et Parmashta et Arizai et Aridai et Vaïezata. Les 10 fils d'Aman, fils d'Amadetta, adversaire des Juifs, furent tués. Toutefois, on ne se livra pas au pillage. Vous remarquerez au passage que le décalage entre l'intention première d'extermination du peuple juif et finalement l'ampleur, somme toute, assez limité des mesures juives à l'égard de leurs ennemis. 500 hommes morts dans la capitale Suse, qui devait compter des centaines de milliers de personnes, c'est finalement assez limité. Mardoché devient très puissant au sein de l'Empire et institue parmi les Juifs la fête de Pourim en souvenir de cette libération. Alors, bien sûr, là, j'ai survolé un peu le texte. Il y aurait beaucoup à dire sur ce récit. Et il ne fait pas de doute que dans le climat actuel de haine, sournoise parfois et généralisée à l'égard des Juifs dans le monde, ce récit ne va pas plaire aux ennemis des Juifs. C'est le genre de récit qui pose problème. Mais nous voulons retenir cependant plusieurs leçons spirituelles, et j'en retiendrai 5 ou 6 pour ce matin. C'est déjà pas si mal. Alors, la première leçon, c'est Dieu est le maître souverain. Et nous remarquons à plusieurs reprises que même si cela n'est pas mentionné explicitement, Dieu est implicitement le maître souverain de l'histoire. Gardons à l'esprit l'objectif sous-entendu de Dieu de ce récit. Il s'agit de l'avènement du Messie Yeshua au milieu de son peuple. Pourquoi ? Si le peuple d'Israël avait été exterminé, il n'y aurait pas eu d'avènement du Messie. Tout simplement. Donc l'entreprise de destruction du peuple d'Israël vise à empêcher l'avènement du Messie tout au long de l'histoire. L'entreprise d'extermination du peuple juif n'est donc pas seulement le fait de quelques dictateurs malins et emportés dans sa colère contre un juif récalcitrant. Non, c'est d'abord la lutte du Satan, du diable, pour empêcher l'avènement du Messie près de 500 ans plus tard. Les circonstances vraiment exceptionnelles dans un contexte loin d'être évident et prévisible frappent le lecteur. L'authenticité du récit ne fait pas de doute, même si certains se sont un peu forcés pour en discuter. Le genre littéraire, l'absence du nom de Dieu ou de rites religieux juifs manifestes plaident en faveur d'une rédaction plutôt assez officielle qui devait se lire lors de la célébration de la fête instituée par Mardoché. Les raisons de l'absence du nom de Dieu sont d'éviter que le texte ne soit en quelque sorte récupéré par les Perses, qui sont des païens, à des fins politiques ou religieuses. Peut-être aussi afin de ne pas froisser quelque part la susceptibilité des maîtres du royaume perse qui auraient vu dans l'attribution de la gloire au Dieu d'Israël une forme de rébellion ou de contestation de l'autorité royale. Cela dit, pour les Juifs qui lisent entre les lignes, il ne fait aucun doute que c'est Dieu, et Dieu seul, qui est à l'origine de leur libération. Aujourd'hui, pour le peuple d'Israël, comme pour chacun de nous individuellement, reconnaître Dieu comme le Dieu souverain de l'histoire, avec un grand H, comme de nos propres histoires personnelles, individuelles, au-delà des apparences et de l'opposition, c'est évidemment un encouragement à notre foi. Deuxième leçon, et pas des moindres, les descendants d'Amalek, le sort des ennemis de Dieu, reste aussi entre les mains de Dieu. Nous apprenons au sujet d'Aman qu'il est un descendant d'Amalek et qu'il est celui qui fomente de détruire tout le peuple juif. Tout part de Aman, finalement. Il convient de se souvenir de qui est ce personnage, Amalek. Il s'agit donc d'un descendant d'Ésaü, d'Édom. Exode 17, verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. L'intercession de Moïse est essentielle pour la victoire sur Amalek. D'où l'idée qui est derrière, qui est c'est un combat spirituel. Exode 17, verset 13. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris ces choses comme souvenir dans le livre, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. Exode 17, verset 16. Il dit, parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Nombre 24, verset 20. Balaam vit Amalek. Histoire de Balaam. Il prononça sa sentence et dit « Amalek est la première des nations, mais en fin de compte, il ira à la perdition. » Et on a là ici une prophétie importante sur l'ennemi de Dieu, Amalek, qui ici est un symbole. Deutéronome 25, verset 17. « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. » Il y a beaucoup de choses dont il faut se souvenir, mais il faut se souvenir même de cet ennemi-là et de le reconnaître quand il est là. Verset 19, Deutéronome 25, verset 19. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, en te délivrant de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage pour en prendre possession, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie pas. » 1 Samuel 15, verset 2. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Je veux intervenir contre Amalek à cause de ce qu'il a fait à Israël. » Lorsqu'il s'est mis sur son chemin à sa sortie d'Égypte. « Va maintenant, frappe Amalek et vouez à l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et agneaux, chameaux et ânes. » Et un petit peu plus loin, verset 8. « Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et voua à l'interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. » Alors parmi tous les décrets de Dieu contre les peuples cananéens, celui contre Amalek est terrible et sans appel. C'est la destruction totale. La première fois, Amalek s'était attaqué à Israël sans préavis contre l'arrière-garde d'Israël et il y eut combat avec Josué sur cette fameuse montagne. Depuis lors, pour Israël, Amalek représente une typologie des ennemis de Dieu sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Amalek symbolise tous les peuples qui s'opposent à Dieu à travers Israël. La condamnation d'Amalek est donc un décret divin qui se perpétue de génération en génération et sous des formes assez diverses. Aman, ici, dans notre contexte, l'Agagite, était peut-être de lignée royale, car il avait pour ascendant le roi Agag, mis à mort par Samuel en son temps, quelque temps avant, bien entendu. Il n'est pas impossible qu'il ait eu conscience de sa lignée et du rôle de son ascendant. Il a peut-être tout simplement voulu aussi se venger ou poursuivre la mission de ses aïeuls, que ses aïeuls n'avaient pas réussi à remplir, d'ailleurs. Et il incarne finalement en sa personne tous ceux qui s'opposent à Dieu à travers son peuple, la guerre contre son peuple. Alors aujourd'hui, il serait peut-être un peu difficile de définir les descendants directs d'Amalek, évidemment. Mais les ennemis de Dieu sont nombreux, et ceux qui veulent l'extermination d'Israël sont plus nombreux que jamais auparavant. La fête de Pourim est un avertissement prophétique pour tous ceux qui se dressent contre Israël pour l'exterminer d'une façon ou d'une autre, et qui d'une autre manière s'opposent à Dieu, tout simplement. Et je voudrais ici ouvrir une parenthèse sur un fait de l'histoire récente qui nous parle du sens de Pourim d'une autre façon. Ça se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En novembre 1945, débute le procès de Nuremberg. Petit cours d'histoire. Et celui-ci va durer presque une année jusqu'en octobre 1946. Seront notamment jugés et condamnés à mort les plus hauts dignitaires nazis, 24 en tout. 24 sont jugés dans ce procès. Le verdict sera prononcé après de nombreux appels, et appels encore, durant cette année-là. Et le verdict, finalement, sera prononcé après Rosh Hashanah, en 1946, et 11 de ces dignitaires seront condamnés à mort. Alors, comme il s'agit de militaires, la plupart du temps, les militaires, quand ils sont jugés coupables, sont exécutés, sont fusillés, quoi, exécutés par les armes. Ici, c'est la première fois que les condamnations à mort sont prononcées par pendaison. Göring, qui, lui, se suicidera dans sa prison la veille de son exécution. C'est donc 10 hommes qui ont été pendus le 16 octobre 1946, le jour de Rosh Hashanah Rabbah, qui, selon la tradition juive, est le jour où on prononce le jugement. Où le jugement est prononcé. Vous savez que qu'il y a dans le mois de Tichri, Rosh Hashanah, qui est un jour aussi de repentance et qui se poursuit avec Yom Kippour, la confession des péchés, et aboutissent Sukkot, et puis aussi donc ce jour Hoshana Rabba, qui selon la tradition est le jour où Dieu prononce le jugement. Donc les 9 premiers hommes montèrent fièrement sur la planche avant d'être pendus pour proclamer leur attachement au Führer, et donc, comme vous pouvez l'imaginer, ne se repentent pas du tout et sont donc pendus. Le 10e homme, Julius Streicher, résista, il ne voulait pas être pendu, lui, et donc c'est donc des soldats qui vont le traîner jusqu'à son lieu d'exécution. Et à cette époque-là, il y a eu bien sûr des journalistes qui ont rapporté tout cela, de François, de Newsweek, qui, donc j'ai lu ça un peu là-dedans. Donc les témoins l'entendirent crier bien sûr « Heil Hitler » et dire « Maintenant je vais à Dieu ». Et juste avant d'être pendu, il cria encore « Pourim 1946 ». Alors, bien sûr, les rabbins établissent une relation sur la base de la guématria, je ne vais pas rentrer là dans les détails, entre le texte du récit d'Esther et notamment l'énumération des 10 fils d'Aman pendus lors du premier Pourim et la date, décalage de la date de Pourim 1946. Curieuse évocation d'ailleurs de Pourim dans la bouche d'un dignitaire nazi, on n'imagine pas ça en général, on ne peut pas s'attendre à ça. Donc dans la bouche d'un dignitaire nazi sur le point d'être pendu, mais je pense qu'ici on a une leçon d'histoire et un avertissement pour les générations futures. Zacharie 12, je ferme la parenthèse, Zacharie 12, par ailleurs, nous rappelle que dans les temps de la fin, les nations se ligueront contre Israël pour le détruire, mais que l'issue finale est la victoire divine sur tous ces peuples hostiles à Israël, et en définitive à Dieu lui-même. Ça, c'était la deuxième leçon. Dieu punit ses ennemis. C'est pas dans les temps futurs. Bien sûr, il y aura aussi, au moment de la résurrection et du jugement dernier, des moments où les gens seront jugés. Mais ici, même ici-bas, sur la terre, Dieu ne laisse pas impunis ceux qui s'opposent à lui ou ceux qui s'opposent à son peuple. Troisième leçon, le prix de l'engagement. On ne peut pas rester neutre, entre guillemets. La reine Esther aurait pu rester tranquille à sa place et continuer, du moins pour un certain temps, à bénéficier de toutes les largesses que lui octroyait celle de la royauté, sa beauté faisant des merveilles dans les salons feutrés, peut-être, de ce royaume de Perse. La reine était l'image type, peut-être, d'une femme assimilée, cachant ses origines par crainte et préférant conserver ses privilèges dans un royaume où pourtant tout pouvait basculer d'un moment à un autre, du jour au lendemain, en fonction de l'humeur d'un roi despote. Et on comprend dans ce récit que les choses peuvent changer très rapidement. Quand vous lisez l'histoire du livre de Daniel, l'histoire de Daniel, ça aussi, ça, du jour au lendemain, ça peut changer rapidement. Ou l'histoire de Joseph avec le pharaon, et là aussi, un jour il est en prison, le lendemain il est premier ministre. Enfin, c'est un peu fantastique quand même. Mardoché, cependant, qui au départ avait caché ses origines juives, avait changé face à l'opposition de l'entourage d'Aman. Alors il a changé d'avis. On connaissait donc maintenant le peuple auquel il appartenait, et cela ne plaisait pas aux ennemis prêts à tout pour l'écarter du pouvoir et de la bienveillance du roi. La fidélité de Mardoché à son Dieu va lui coûter cher, et finalement, il n'y a que la reine Esther à pouvoir, dans son rôle et à sa place, inverser la situation et amener le salut du peuple. Elle relève le défi au risque de sa vie et intercède auprès du roi, non sans avoir préparé le peuple et elle-même à cette épreuve. On ne peut rester neutre et s'imaginer que notre situation peut nous préserver de la persécution à venir. Ce sont certes les Juifs qui vont être visés dès à présent, mais les chrétiens suivront. La tranquillité de nos chaumières est un leurre pour quiconque veut vivre sa foi jusqu'au bout. 2 Timothée 3,12 nous dit ceci. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Yeshua le Messie seront persécutés. Aujourd'hui, la foi se mesure à l'engagement et à l'obéissance. Le temps est déjà venu où ceux qui vivent simplement leur foi seront montrés déjà du doigt. Le parallèle entre la situation de la reine Esther et notre monde contemporain doit nous inviter au réalisme et au courage. La vraie foi conduit forcément à se distinguer du monde et même à se rendre ennemi du monde et de celui qui veut le régir, le diable. Jacques l'évoque dans une proposition inverse. Il dit en Jacques 4, verset 5, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié, c'est-à-dire ennemi, contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Et on pourrait inverser la proposition en disant « Celui qui veut se rendre ami du monde sera ennemi de Dieu. » Et l'apôtre Paul nous invite à une démarche tout autre dans Romains 12, verset 2, je crois. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Verset assez connu. « Mais surtout le suivant, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ne vous conformez pas au monde présent. Autrement dit, ne cherchez pas à trouver votre compte dans ce monde ici-bas. Il y a dans ce monde une dichotomie qui place chacun dans l'une ou l'autre position, ami ou ennemi de Dieu, ou encore ami ou ennemi du diable. Cette présentation manichéenne sous-entend l'exclusion de toute position neutre. Il n'y a pas dans la Bible des gens qui sont spectateurs, assis sur le côté, en train de regarder comme un match de ping-pong, une fois à droite, une fois à gauche.
C'est comme dans l'Apocalypse, quand il dit que tu sois froid ou bouillant.
Par exemple.
C'est là ou c'est l'autre.
Voilà. Replacé dans notre contexte moderne et dans notre monde, le juif en premier lieu, mais aussi le croyant, se trouve toujours en première ligne comme des individus évoluant en territoire ennemi. L'espérance de la vie éternelle n'est pas seulement une invitation à un certain détachement du monde à cause de justement cette espérance. Le détachement du monde est aussi dû au fait du statut que nous pouvons avoir d'ennemi de ce monde. Et je parle bien sûr ici d'un point de vue spirituel. Quatrième leçon, Dieu fait justice et ne laisse pas son peuple sans espérance. La conclusion de ce récit d'Esther, n'est pas seulement une délivrance physique des ennemis, c'est l'expression d'une certaine justice. Dieu punit Amalek, et à travers lui Aman, de tous ceux et tous ceux qui le suivent. Ce qu'ils avaient projeté de faire vient s'appliquer à eux. Ils voulaient pendre Mardoché, c'est lui qui est pendu. Le châtiment qu'ils espéraient infliger à Israël se retourne contre eux. On peut se demander pourquoi, dans une certaine mesure, la clémence ou le pardon ne sont pas présents dans le texte, en apparence du moins. C'est même un peu le contraire. C'est que la grâce de Dieu n'existe pas sans l'exercice en même temps de la justice de Dieu. Le texte du livre d'Esther n'a pas pour objet de présenter la grâce offerte aux pécheurs repentants. Les ennemis des Juifs ne sont pas repentants du tout de leurs entreprises diaboliques. Mais ils font l'objet d'une condamnation sans appel de Dieu. Le fond du texte présente avant tout une image spirituelle qui, en ce qui concerne le peuple juif, se traduit par une persécution mortelle que Dieu limite dans sa grâce envers son peuple, et parce qu'il a l'intention d'accomplir son projet de salut. Certes, tout n'est pas aussi simple que ça. Lors de la Seconde Guerre mondiale, des Juifs sont morts. Injustement. Et en même temps, ils ne sont pas tous morts. Heureusement. Les nazis, il y en a qui ont malheureusement aussi survécu à cela et qui n'ont pas été poursuivis, mais il y en a aussi qui ont été jugés.
Comme on l'a vu.
Et certains ont même été reconnu quelque part, cette histoire que j'ai racontée tout à l'heure de Pourim 1946 montre bien qu'il y a aussi une prise de conscience, peut-être en tout cas, là, en l'occurrence d'au moins un, que Dieu reste souverain dans cette histoire. Ils avaient l'intention d'exterminer le peuple juif et les choses se sont retournées contre eux. L'auteur du livre relativise d'ailleurs la portée des destructions opérées pour mettre l'accent davantage sur l'issue libératrice du peuple d'Israël et la place qu'il retrouve dans son exil. Verset 6, « Rien qu'à Suse, la capitale des Juifs, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes. et Parshandatta d'Alphon, enfin tous les fils, les 10 fils d'Aman, fils d'Amadetta, adversaire des Juifs, ceux-là furent tués. Toutefois, on ne se livra pas au pillage. Quoique Dieu ne soit pas formellement présent dans le texte, il est bien évident que l'honneur et le mérite lui reviennent avant quiconque. Le peuple d'Israël a exprimé sa foi en son Dieu, et c'est là une leçon encore valable aujourd'hui, alors que les nations manifestent de plus en plus d'hostilité contre Israël. Il n'y a pas dans ce récit un appel à la foi, à faire confiance en la libération de Dieu. C'est un message d'espérance pour tous les croyants qui souffrent de la persécution. Il y a aussi dans ce récit un avertissement pour tous ceux qui s'opposent à Dieu, bien sûr. Il y a une rétribution et un jugement qui les attendent s'ils persévèrent dans leur rébellion. Cinquième leçon, la dernière, plus courtement, l'avènement du Messie est en ligne de mire. Il ne fait pas de doute que ce livre d'Esther n'a pas pour seul but de nous renouveler dans nos espérances et nos attentes du secours de Dieu. À l'instar de toutes les Écritures, le livre d'Esther parle dans un sens prophétique de l'avènement du Seigneur, de son action libératrice et de la rétribution des méchants. Nous vivons aujourd'hui ces temps prophétiques annoncés, même si aujourd'hui les circonstances semblent contraires et si l'opposition menace de nous exterminer, voire d'exterminer concrètement le peuple d'Israël, eh bien le libérateur vient de Sion, il agira et délivrera son peuple. Les nations qui se seront opposées à Dieu seront jugées et détruites. Le message d'Esther est un message d'espoir, en même temps qu'un appel à la vigilance pour se tenir prêt et se tenir debout sans compromis avec tous ceux qui rejettent le salut de Dieu.